France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Parce que le président américain alterne, comme à son habitude, les signes d'accalmie avec les propos vindicatifs, la situation reste encore hautement inflammable à Minneapolis, mais pas seulement, on le verra dans toutes les villes en réalité où les citoyens comme les élus tiennent tête à l'administration républicaine. On s'intéressera au Royaume-Uni qui, à l'instar du Canada il y a quelques jours, entend lui aussi tourner la page des années de froid diplomatique avec la Chine. Avec notre invité, on évoquera la situation toujours confuse autour de la question iranienne et puis l'actualité en France. Ce sont tout d'abord les chiffres du chômage en hausse au quatrième trimestre. Enfin, on s'intéressera à un nouveau débat au Sénat entre défenseurs de l'environnement et partisans du développement économique local. Si Donald Trump avait semblé vouloir jouer l'apaisement en annonçant cette semaine un retrait partiel des rues de Minneapolis de ses agents masqués de la police de l'immigration, le président américain a prouvé hier qu'il n'entendait pas pour autant relâcher son étau sur la grande ville du Minnesota, renouant avec sa rhétorique incendiaire. Le locataire de la Maison-Blanche s'en est pris directement au maire démocrate de la cité du Midwest, plus exactement, et après que Jacob Frey eut déclaré qu'il n'appliquerait pas les lois fédérales sur l'immigration, Donald Trump l'a menacé de vouloir jouer avec le feu. Autre signal fort de cette confusion qui parcourt les États-Unis à Washington, les démocrates, eux, menacent toujours de provoquer un nouveau shutdown. S'ils n'obtiennent pas des réformes de l'ICE d'ici demain soir, des tractations de dernière minute sont en cours pour ne pas replonger le pays dans une énième crise. Enfin, dernière illustration de cette vague d'indignation générale autour de la mise en œuvre brutale des politiques anti-migrants de l'administration Trump. Au Texas, cette fois-ci, une manifestation pacifique a été dispersée. Il y a un coup de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Virginie Pironon, bonjour.
Bonjour.
Une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant le centre de détention où a été transféré le petit Liam, 5 ans, un Équatorien dont les images de l'arrestation à Minneapolis le 20 janvier dernier avaient ému bien au-delà des frontières des États-Unis. Il se trouve qu'un représentant démocrate a pu lui rendre visite hier. Il décrit un enfant déprimé, triste et s'inquiète même Virginie pour sa santé mentale.
Et ce représentant démocrate du Texas, c'est Joaquin Castro. Il s'est donc rendu hier dans ce centre de Dilley, tenu par l'ICE, la police de l'immigration américaine, où sont envoyées les familles de migrants avec des enfants mineurs. Joaquin Castro a pu passer une demi-heure avec le petit garçon et son père. Et à la sortie, il a en effet confié son inquiétude sur CNN.
Il nous a dit que ses camarades de classe et sa famille lui manquent et qu'il veut retourner à l'école. Il n'arrête pas de poser des questions sur son bonnet et le cartable qu'on a tous vu sur la photo. Je pense qu'ils le lui ont pris. Je m'inquiète pour lui car son père dit qu'il est déprimé et très léthargique.
Oui, ce bonnet bleu aux oreilles de lapin et ce cartable Spider-Man, l'image devenue virale a fait le tour du monde. Sur la léthargie du petit garçon, le représentant démocrate ajoute, photo à l'appui, qu'il était environ 13h30 quand il a fait sa visite et Liam, en tenue de jogging, s'est endormi sur les genoux de son père. Évidemment, cette situation connaît un fort retentissement à travers tous les États-Unis. Il y a des cas similaires. Le représentant démocrate dit avoir rencontré hier plusieurs autres enfants dont les mères sont très inquiètes et parlent de dépression. Joaquin Castro décrit des conditions proches de la prison, un confinement, dit-il, et parfois un manque de traitements médicaux appropriés. Concernant le cas de Liam, avant-hier, un juge fédéral a suspendu jusqu'à nouvel ordre la procédure d'expulsion. Joaquin Castro soutient que la famille se trouve dans le pays en situation régulière et que le père et son fils doivent tous les deux être libérés. Il appelle à la dissolution de l'ICE et à la destitution de la ministre américaine à la sécurité intérieure, Kristine Noem.
Merci Virginie Pironon.
Décidément, cette première année de mandat de Donald Trump aura été marquée par un changement prononcé de la politique des États-Unis, notamment économique.
Oui, Washington a déclenché des guerres tarifaires contre ses partenaires commerciaux, mais pas seulement. Donald Trump s'en est pris lui-même à la politique monétaire de la Réserve fédérale, jusqu'à menacer l'indépendance de l'institution. Hier, le patron de la Fed a tenu finalement à rassurer la Banque centrale ne se laissera jamais contaminer par la politique politicienne, a déclaré Jérôme Powell, avant de laisser ses taux d'intérêt inchangé contre l'avis du milliardaire républicain. C'est l'une des nombreuses conséquences de cette poussée protectionniste de Donald Trump, comme de sa diplomatie parfois erratique. Le renforcement partout d'alliances commerciales qui, à long terme, pourrait finir par fragiliser l'hégémonie des États-Unis. Ainsi, après que l'Inde et l'Union européenne ont officialisé mardi la conclusion d'un vaste accord de libre-échange, aujourd'hui, c'est au tour de la Chine et du Royaume-Uni d'affirmer la nécessité de renforcer leurs relations. Ce matin, au cours de la toute première visite à Pékin d'un chef de gouvernement britannique depuis 2018, Keir Starmer a certes admis la persistance de différends sérieux, tout en soutenant que ces divergences ne devaient pas empêcher la coopération. Les précisions depuis Londres de notre correspondante Gaëlle Joly.
Les relations avec la Chine sont excellentes et solides, a assuré le Premier ministre britannique en pleine visite de la cité interdite. Keir Starmer a affirmé que les discussions avaient permis de progresser sur la réduction des droits de douane imposés par la Chine sur le whisky, mais aussi sur la perspective d'un voyage sans visa en Chine pour les citoyens britanniques, ou encore sur l'échange d'informations concernant l'immigration clandestine au Royaume-Uni, notamment ces petites embarcations qui traversent la Manche et dont la grande majorité des moteurs saisis l'an dernier étaient fabriqués en Chine. Interrogé sur le cas Jimmy Lai, ce militant hongkongais pro-démocratie, détenu depuis 5 ans et reconnu coupable de collusion avec les forces étrangères, ou sur la persécution de la minorité musulmane ouïghour, nous avons soulevé ces questions, a sobrement commenté le Premier ministre dans un dialogue respectueux. Pour Keir Starmer, la coopération avec la Chine relève de l'intérêt national. La Chine est le troisième partenaire commercial du Royaume-Uni et le chef du gouvernement est accompagné d'une délégation d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. AstraZeneca, dont le siège social est au Royaume-Uni, vient d'annoncer un investissement de 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030.
Le doigt sur la gâchette.
Face aux menaces répétées de Donald Trump, la République islamique d'Iran se dit toujours prête ce matin à une riposte écrasante, tout en réitérant sa volonté par ailleurs de négocier un accord nucléaire. Et en attendant, pour conjurer la menace d'une intervention, eh bien Téhéran multiplie les contacts diplomatiques, en particulier dans la région. Parallèlement, devant le massacre d'une ampleur sidérante commis par les gardiens de la révolution, de plus en plus d'Iraniens ont cessé d'espérer un changement de régime de l'intérieur et nourrissent à présent, pour certains, du moins une attente ambiguë, une libération venue d'ailleurs. Alors, parmi les options envisagées par Washington, certaines incluent justement des bombardements de sites militaires et des frappes ciblées contre des dirigeants pour faire tomber le pouvoir. Jusqu'à quel point ce scénario est-il véritablement réaliste? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, par ailleurs co-auteur de « La République islamique d'Iran en crise systémique » paru en 2022 chez L'Harmattan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis le début de cette semaine, Donald Trump ne cesse d'intensifier donc la pression sur le régime iranien, qu'il a menacé de frappe plus grave que celle ordonnée en juin dernier si un accord sur le nucléaire n'était pas conclu rapidement. En réponse, Téhéran se dit prêt à répliquer. Dans le même temps, la Turquie a proposé de jouer les médiateurs. Quel pourrait être l'objet de nouvelles négociations sur le programme nucléaire iranien?
En réalité, les conditions sont inchangées. C'est pour ça que c'est susceptible d'entraîner une situation d'affrontement réel. C'est que les conditions qui avaient été posées lors des premières négociations l'été dernier et qui avaient fait l'objet de 5 cycles de négociations n'avaient pas abouti. Et d'ailleurs, le président américain avait décidé, compte tenu de l'impasse de l'époque, de frapper les principaux sites nucléaires. Or, aujourd'hui, la situation demeure inchangée. C'est-à-dire que le président Donald Trump a rappelé, qui souhaite officiellement un deal avec Téhéran, a rappelé les conditions justement qui prennent la forme d'un ultimatum pour Téhéran, à savoir le renoncement à l'enrichissement sur le sol iranien, donc enrichissement zéro enrichissement, la restitution des 450 kilos enrichis déjà à 60%, la limitation du programme balistique justement de longue portée, et la fin du soutien aux proxys régionaux. Autant de conditions léonines jugées inacceptables pour Téhéran. Donc on voit pas très bien comment un deal tel qu'il apparaît souhaité par le président américain pourrait être finalisé dans ces conditions.
La tension actuelle découle au départ, on le sait, d'un mouvement de contestation populaire contre le régime des Mollahs, récupéré donc ensuite par Donald Trump. Est-ce que cela signifie que le risque existe aujourd'hui que la colère des Iraniens ne trouve que pour seule réponse l'ouverture de nouvelles négociations avec les puissances étrangères au détriment donc des aspirations de la population?
En tout cas, du point de vue de Donald Trump, même s'il avait évoqué effectivement dans une déclaration un peu erratique le soutien. L'aide arrive, avait-il déclaré à l'époque, justement à destination de ceux qui s'étaient, qui avaient manifesté. Et les conséquences ont été terribles, puisque le 8 et 9 janvier dernier, ça a donné lieu à un massacre à huis clos. Et l'aide n'est pas arrivée au moment en question, puisque de toute façon, le dispositif américain n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, Donald Trump n'avait pas les moyens d'effectuer une aide en termes militaires à la population iranienne. La situation aujourd'hui est évidemment différente, puisque c'est une armada, telle qu'il l'a qualifiée, qui entoure l'Iran. Mais en réalité, l'enjeu pour lui, il est moins le soutien direct à la population, à ses aspirations démocratiques, qu'à l'obtention d'un great bargain, c'est-à-dire d'un deal sur les conditions que j'ai évoquées précédemment. Et donc, on voit bien que le régime qui joue sa survie, de toute façon, peut difficilement transiger là-dessus, compte tenu du fait que ce serait pour lui un suicide par rapport à la situation qui prévaut en interne.
Est-ce qu'une intervention armée américaine pourrait suffire à faire tomber le régime iranien ?
Non, c'est pas évidemment. Donald Trump, d'ailleurs, avait dit l'été dernier qu'il n'était pas dans une logique de regime change sur le modèle de l'Irak de 2003. Il a toujours rappelé le principe qui est le sien, sa ligne rouge, no boots on the ground, pas de troupes au sol. Ce qui n'implique pas forcément de renoncer à des frappes ciblées, mais en même temps, avec effectivement, c'est une équation à plusieurs inconnues, puisque les frappes en question sont pas forcément susceptibles de faire tomber le régime. Même si effectivement la stratégie manifestement aujourd'hui du président américain, avec une logique de blocus autour de l'Iran pour assécher ses recettes pétrolières justement sous sanction, c'est éventuellement de provoquer un régime, une implosion du régime de l'intérieur, en espérant que émergerait un interlocuteur susceptible de finaliser un accord, l'accord espéré. Mais pour l'instant, on en est loin, et donc la confrontation potentielle est réelle.
C'est bien compris. Merci David Rigolero, chercheur associé, je le rappelle, à l'Institut français d'analyse stratégique, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.
Les protestations politiques affluent de toutes parts, à droite comme à gauche.
Hier, le gouvernement a confirmé la vente à une société américaine du groupe français LMB Aerospace, qui fabrique notamment des ventilateurs pour les rafales et les sous-marins nucléaires. De quoi provoquer l'ire de l'opposition quand le Rassemblement national dénonce une grande braderie. La France insoumise qualifie de suicidaire la décision de faire passer un industriel stratégique pour notre défense entre les mains de Donald Trump. Et quand bien même le ministre de l'économie, Roland Lescure, promet un suivi rapproché, c'est vrai que cette vente a de quoi interroger. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Et elle interroge d'ailleurs d'autant plus, Hakim, que la direction générale de l'armement elle-même était contre.
Oui, Thomas, la DGA souhaitait que le repreneur soit français. Car comme toujours, lorsqu'il s'agit de défense, se pose la question de la souveraineté. D'autant que le groupe LMB Aerospace produit des pièces métalliques avec des alliages très complexes, pouvant résister à de très fortes variations de température. Alors même si le gouvernement et le ministre de l'économie, Roland Lescure, ont imposé des conditions drastiques, comme la mise en place par exemple d'une golden share, avec une action préférentielle au capital de l'entreprise, qui doit permettre à l'État français de pouvoir bloquer toute décision stratégique, pour autant, ces dispositifs ne suffiront pas forcément au vu de la politique actuelle menée par Donald Trump, estime Xavier Dittelmann, expert aéronautique au cabinet Aviation Next.
Sur le principe, c'est vrai qu'on a mis ce qu'on appelle des golden shares, c'est-à-dire que même si l'État français ou la France n'est plus majoritaire dans le capital de la société, on doit pouvoir en garder le contrôle. Néanmoins, ça c'est dans un monde idéal dans lequel les règles sont respectées. Et on le voit jour après jour, Trump bafoue le droit international, il ne respecte pas ses partenaires, il ne respecte plus les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc finalement, c'est très bien, c'est les Américains, mais est-ce que les Américains sont encore nos alliés? Est-ce que ce sont nos adversaires? Est-ce que demain ce seront nos ennemis, si jamais par exemple ils s'en prenaient au Groenland? Donc dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un capital extra-européen puisse être une garantie avec simplement parce qu'on a gardé un golden share sur le capital? Moi j'ai en fait quelques doutes.
Enfin, précision qu'avec son siège basé à Malemort-sur-Corrèze, LMB réalise actuellement 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, où s'est d'ailleurs installé son PDG dès 2016.
Merci Hakim Kasmi.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité inscrit à France Travail a augmenté de 2,6% au quatrième trimestre 2025, une hausse qui s'élève à près de 7% sur un an. Alors pour le gouvernement, il s'agirait là seulement des effets de la loi Plein Emploi avec l'inscription des allocataires du RSA rendus obligatoires, ce dont en revanche doutent fortement les organisations syndicales. Et les explications de Wafia Kenich.
Premier constat, le chômage a bel et bien augmenté non seulement au quatrième trimestre de 2025, mais aussi tout au long de l'année. Au quatrième trimestre, d'abord avec 1% de chômeurs en plus sur les derniers mois de l'année dans les catégories A, B et C. Sur un an, et c'est plus intéressant, on note une augmentation de 1,6% du nombre de chômeurs, soit 72 000 inscrits supplémentaires. Dans le détail, si on prend la catégorie A, c'est-à-dire n'ayant pas du tout travaillé, au quatrième trimestre, le taux de chômage augmente pour cette catégorie de 2% environ, la même chose sur l'année. Enfin, concernant les nouveaux arrivants, les bénéficiaires du RSA que la loi Plein Emploi oblige à s'inscrire à France Travail, eh bien 255 000 personnes sont en parcours social, c'est-à-dire que leur dossier est en cours d'orientation, mais reste que 812 000 personnes sont en attente, donc que leur dossier n'a pas encore été traité. Ce que l'on peut tirer de ces chiffres de la DARES, c'est que le chômage a donc bien progressé depuis un an, et cela en dehors des effets de l'inscription des personnes au RSA. Les premières victimes de cette hausse du chômage, ce sont les jeunes. 120 000 chômeurs de moins de 25 ans sur l'année en plus, avec notamment une baisse du nombre d'apprentis. Un signal pour la chercheuse Anne Fretel, l'augmentation du chômage des jeunes indique habituellement que les autres segments vont aussi se dégrader.
Bientôt la fin du feuilleton budgétaire.
Oui, au Sénat, l'alliance majoritaire de droite devrait a priori rejeter d'emblée le projet de budget aujourd'hui, comprenez, sans rouvrir les débats. Le texte va donc désormais revenir à l'Assemblée pour une lecture définitive, probablement au début de semaine prochaine. Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera alors la responsabilité de son gouvernement pour la troisième et dernière fois, s'exposant à deux nouvelles motions de censure, lesquelles devraient être rejetées, refermant ainsi 4 mois de débats parlementaires à la dérive.
Et en attendant, voilà déjà que de nouveaux débats agités se profilent. Ce sera cet après-midi au Sénat.
La Chambre haute est appelée à examiner une proposition de loi visant à relancer les projets d'énergie fossile en Outre-mer. Une revendication en l'occurrence venue directement de Guyane et qui a d'ores et déjà soulevé bien entendu de vives oppositions de la part des défenseurs de l'environnement. Or, ce texte a beau avoir été co-signé par des élus à la fois ultramarins et macronistes, il fait débat en réalité jusque dans les rangs gouvernementaux. De sorte qu'on attendait l'arbitrage final. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et finalement, la question a donc été tranchée hier. Le gouvernement, Stéphane, ne soutiendra pas cette proposition de loi.
Non, il y a eu d'intenses discussions avant que l'arbitrage ne soit rendu hier. Cette proposition de loi, portée par un sénateur guyanais, Georges Patient, vise à réautoriser la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans les Outre-mer. En réalité, elle concerne essentiellement la Guyane, car il y a du pétrole tout autour, au Venezuela, au Guyana, au Suriname, au Brésil, et tous ces pays-là exploitent la ressource. Et nous, non, on ne fait rien, plaide ce sénateur, ainsi que la ministre de l'Outre-mer, Naïma Moutchou. Elle était l'une des plus ferventes partisanes du soutien à ce texte au sein du gouvernement. Il y a quelque chose d'hypocrite dans l'attitude de la France, explique un de ses conseillers, car on achète du pétrole à tous ces pays qui en produisent, et nous, on s'interdit d'aller voir sous nos pieds si on en a. Seulement si on fait ça, si on réautorise la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures, on revient sur l'une des importantes dispositions de la loi Hulot, votée en décembre 2017. On risquait ainsi d'alimenter le procès qui est régulièrement fait à l'exécutif de privilégier les considérations économiques au détriment des préoccupations environnementales. C'est la raison pour laquelle la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a mis sa démission dans la balance. Et puis, ce qui a pesé également, c'est que le soutien du gouvernement serait apparu comme un nouveau renoncement, un nouveau détricotage de l'action et du bilan d'Emmanuel Macron. Par conséquent, ça a discuté dans tous les sens, raconte un conseiller ministériel, et c'est remonté très très haut, au-dessus de Matignon, affirme-t-il, c'est-à-dire à l'Élysée. C'est donc le président qui a tranché. Et donc, le gouvernement ne soutient pas, c'est la décision que défendra le ministre de l'économie Roland Lescure, qui siégera tout à l'heure au banc des ministres, et ce ne sera pas simple, car le sénateur Georges Patient est un macroniste, membre du groupe des démocrates et progressistes, c'est-à-dire du groupe Renaissance au Sénat.
Merci Stéphane Robert. Preuve malgré tout que la paralysie parlementaire n'est pas une fatalité. Les députés examineront eux aujourd'hui une autre proposition de loi transpartisane, l'instauration d'un nouvel outil juridique censé mieux protéger en urgence les enfants victimes d'inceste ou de violences parentales. Enfin, près de 3 mois après sa libération de prison en Algérie, Boualem Sansal se retrouve désormais aux portes de l'Académie française. L'écrivain franco-algérien figure parmi les 6 prétendants en lice pour un fauteuil d'immortel. Le vote à huis clos sous la coupole de l'illustre édifice des bords de Seine est prévu dans un peu plus de 2 heures. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec un ciel le plus souvent couvert et humide. Seul le sud-est bénéficiera d'un soleil généreux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.